السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a donné ce merveilleux cadeau qu'est le iman. On sait que le iman, c'est la clé qui nous permet d'accéder au paradis. C'est la clé qui nous donne l'accès au contentement d'Allah. Et c'est la seule chose qui peut nous donner le succès dans cette vie de ce dunya et le jour de Qiyamah, Yawm al-Qiyam. Alors qu'une personne qui n'a pas le iman, même si cette personne s'efforce à œuvrer toute sa vie dans des associations caritatives, dans des œuvres de bienfaisance, dans n'importe quelle bonne action, en guillemets, ces amal lui seront profitables que dans ce dunya. Ces actions ne lui seront profitables que dans cette vie. Allah lui donnera l'honneur, Allah lui donnera le succès. Mais le jour de Qiyamah, Allah Ta'ala dit dans le Coran, « وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلْ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا » que ces actions n'auront strictement aucune valeur le jour de Qiyamah, même si c'est des montagnes de tawab, de hasanat, à partir du moment où il n'y a pas le iman, les actions n'ont aucune valeur. Allah Ta'ala a décidé que la religion, la seule religion qui est acceptée par lui, c'est « Inna dina inda Allah l'islam ». Pour cette communauté, c'est uniquement l'islam qui est accepté et requis par Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas une religion, il n'y a pas une religion qui est destinée à durer autant de siècles que l'islam. Il n'y a pas une religion pour qui Allah Ta'ala a destiné que ce din devra perdurer aussi longtemps que l'islam. Certains adhyans, certaines religions devraient durer depuis l'arrivée d'un prophète jusqu'à l'autre prophète, 2 siècles, 3 siècles maximum. Mais ce din commence depuis le Nubuwwah, la prophétie de le prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, il y a à peu près 16 siècles de cela. Et ce din va durer, Wallahu ta'ala a'lam, jusqu'à ce que Allah décide que le soleil se lève de l'autre côté et que le Qiyamah commence. Tant qu'il y aura un souffle de vie sur la terre, la religion qui sera demandée et requise par Allah, ce sera l'islam. Alors il faut bien comprendre que si Allah ta'ala a décidé que cette religion dure jusqu'au Qiyamah, il fallait bien qu'Allah ta'ala décide que cette religion ait le sifat, les qualités pour qu'elle soit acceptée et pour qu'elle soit praticable par toute la communauté, par toutes les civilisations, quelles que soient les époques et les peurs. Imaginez que ce din composé, comportait plutôt des actions qui faisaient partie de ces piliers, qui auraient été impraticables au 21e, ou au 22e, ou au 25e siècle. Comment Allah Ta'ala peut-il exiger des musulmans de pratiquer une action qui n'est plus praticable, qui est totalement hors contexte? Ce qui fait que dans les fara'id, dans les choses qui sont obligatoires dans l'islam, il n'y a rien de difficile. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجِ. Il n'y a aucune difficulté dans la religion. Allah Ta'ala n'a rendu aucune action difficile. Ainsi, la salat pratiquée 5 fois par jour est accessible à toutes les personnes. Le hajj, 1 fois par an, c'est quelque chose d'accessible. Le hajj n'a jamais été obligatoire chaque année dans la vie du musulman. La zakat, 2,5%, c'est quelque chose d'accessible à une personne qui a les moyens. Allah ne nous a pas demandé de donner la moitié de nos biens aux trois fois de nos biens en zakat. Le somme du ramadan également, 1/12 de l'année, c'est quelque chose d'accessible à tout le monde. On comprend que ce din, c'est une religion du juste milieu. Et c'est pour cela que cette religion peut être pratiquée depuis l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à akhir al-zaman, jusqu'à la fin des temps. Et cela parce que c'est une religion du juste milieu. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Allah fait de nous une communauté du juste milieu. Et ce wasatiyya, ce juste milieu qu'il y a dans la religion, c'est entre autres dans la pratique. Dans la manière de pratiquer, le prophète alayhi salatu wassalam a dit en ce sens, halakal mutalaqi'un, et Allah a dit dans le Coran à propos des ahli kitab, ya ahli kitab, la taghlu fi dinikum. Allah Ta'ala nous a interdit l'exagération dans la pratique. Vous connaissez l'histoire de ces sahaba, 3 sahaba, un qui a dit, je ne me marierai jamais. L'autre a dit, je ne dormirai plus la nuit, je passerai mes nuits dans le tahajjud. L'autre a dit, je ne mange plus du tout. Je vais passer toute ma vie, mes matinées, dans le forme, dans le rosa. Notre prophète, alayhi salatu wassalam, était très en colère. Il a dit que je suis le plus pieux parmi vous, alors que je me marie. Il y a des nuits où je dors, et dans la nuit, je me réveille pour faire le tahajjud. Il y a des jours où je jeûne, il y a des jours où je ne jeûne pas. Le C'est pour voir le Sahaba qu'on ne doit pas mener une pratique exagérée de la religion. Car tout excès nuisible. Tout excès est nuisible. Et ce ressenti, il y a ce juste milieu, on l'observe également, et là c'est le but de notre programme, dans le partage du temps entre le dîn et le dunya. Et ça c'est exceptionnel. Parce que dans notre religion, Allah Ta'ala nous a donné un quota de temps qu'on doit tirer. On doit consacrer pour l'ibad d'Allah, mais il y a également un quota, il y a également un haq, un droit de notre temps, un droit de nos biens, un droit de notre corps, un droit dans tout ce que nous avons pour notre dunya. Alors que dans certaines cultures, dans certaines civilisations, on ne peut se rapprocher du divin, on ne peut atteindre un degré de piété qu'en s'isolant, qu'en se coupant entièrement de la civilisation. C'est ce qu'on appelle l'ascétisme. Et le prophète alayhi salatu wassalam dit bien dans le hadith la rahbaniyata fi din. Il n'y a pas d'ascétisme dans l'islam. Ce n'est pas que si je veux me rapprocher d'Allah, je vais quitter la société. Je vais louer une maison dans les hauts, à Mafat, Silaos, je ne sais où, et je vais rester là-bas, je vais faire ma salat, mes ta'adjud, mes qiyamoulay, je vais jeûner le matin, faire le dhikrullah. Je me coupe totalement de la civilisation et de cette manière je me rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela n'a jamais été préconisé. Cela n'a jamais été demandé par l'islam et cela n'a jamais été le mode de vie d'un prophète. Parce que chaque prophète, chaque ambiya, travaillait pour gagner leur vie. Et on va développer ça. Ainsi, le prophète encourage chaque musulman, le prophète encourage chaque musulman à devenir un pilier dans le mujtama, à devenir un pilier dans la société où elle évolue. Ce n'est pas que le musulman, c'est celui qui vient en retrait, cloîtré dans sa masjid et dans les lieux d'adoration et qui n'a aucune activité professionnelle. Ce n'est pas ça le musulman qui vit l'islam demandé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On n'a qu'à analyser les versets du Coran dans lesquels il y a des conseils pour Qarun. Vous connaissez l'histoire de Qarun, l'homme le plus riche de tous les temps. Allah a dit en s'adressant à Qarun, وَبْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. Il est demandé à Qarun, dans ce verset du Coran, recherche, la traduction est approximative, recherche, وَبْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةِ, recherche la vie de l'au-delà à travers les choses qu'Allah t'a données. Il n'a jamais été dit à Qarun que tes richesses vont t'entraîner droit au Jahannam. Il n'a jamais été dit qu'une personne qui est riche, c'est un futur habitant de l'enfer. Il n'a jamais été dit. D'ailleurs, c'est Uthman ibn Affan, radiallahu ta'ala, ainsi qu'Abu Bakr al-Siddiq, radiallahu anhu, et d'autres sahaba, c'était des personnes très aisées. Donc, être riche, avoir les moyens, ne va pas à l'encontre de ce que Allah nous demande et ce que notre prophète nous demande. Allah dit bien, les moyens qu'Allah a donnés à Qarun devaient être un intermédiaire pour qu'il se rapproche d'Allah. Mais Qarun n'a pas écouté ses conseils. Et on dit à Qarun, on demande explicitement à Qarun de ne pas oublier sa part de la dunya. Partager son temps entre les a'mal du akhirah, donner du temps pour le akhirah sans pour autant oublier totalement notre part de ce dunya. Et ça, c'est le ressenti, c'est le juste milieu qu'Allah Ta'ala a requis pour notre communauté. Comme on a dit, tout excès nuisible, un excès dans le dunya, on sombre dans le matérialisme. Lorsque le hubbu dunya entre dans le cœur, l'amour pour le dunya rentre dans le cœur, on est perdu. L'excès d'attachement pour les biens, c'est le matérialisme, c'est interdit. Mais également l'excès de pratique. L'excès de pratique et l'abandon de toute vie sociale, c'est contraire au principe de notre religion. On va expliquer ça. Analysons également le ayat du Coran dans lequel Allah Ta'ala incite les musulmans à donner la sadaqa, mais en même temps, Allah Azza wa Jal explique bien comment donner la sadaqa et quelles sont les limites. Allah dit dans le Coran, وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. Dans ce ayat, Allah Ta'ala dit, c'est la traduction, Allah Ta'ala dit aux musulmans, ne faut pas mettre notre main enchaînée à notre cou. C'est-à-dire par avarice. C'est une métaphore, c'est une expression pour faire comprendre que le musulman ne doit pas être avare. Qu'il ne donne pas un rond en sadaqa, qu'il garde ses biens uniquement pour lui. Mais en même temps, là c'est une interdiction de l'avarice. Mais en même temps, voilà la soukha pour la sortie et ne l'étend pas non plus trop largement.
Et c'est ça ce qui est extraordinaire. On voit le juste milieu. Ne pas garder ses biens, mais ne pas tout donner non plus.
Sinon, c'est quoi les conséquences? Les conséquences, c'est fatah ruda maloum maqsoura. Sinon, tu te trouveras blâmé et chagriné. Si une personne fait preuve d'avarice, on connaît les mises en garde contre l'avare, la personne qui ne donne pas en sadaqa. Mais on connaît également quelles sont les conséquences si une personne donne tout en sadaqa et qu'elle se retrouve elle-même dans les difficultés. Et c'est exactement là où voulait arriver notre prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il était au chevet d'un sahaba, sahaba dont je ne me souviens pas du nom, qui était mourant, qui agonisait, et dans ses derniers wasiyah, il voulait donner la totalité, l'essentiel de ses biens en sadaqa. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas accepté ce sadaqa. Il voulait donner la moitié de ses biens en sadaqa. Là également, notre prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam ne voulait pas, même pas le quart. Et là, le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam a accepté le tiers. Et il a dit, « Al-thuluthu wa thuluthu kathir ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le tiers, d'accord, mais déjà, même le tiers, c'est beaucoup. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté que ce sahaba donne le tiers de ses biens en sadaqa. Ça veut dire quoi? Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit à un sahaba ou un musulman de donner la sadaqa, alors que le prophète, c'est lui qui sait mieux quelles sont les récompenses pour la sadaqa? Notre prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam ne veut pas qu'un musulman, ne veut pas freiner un musulman dans un élan de générosité, mais le prophète alayhi salatu wassalam veut ramener le musulman à une pratique modérée, un juste milieu. Et le prophète va expliquer pourquoi il n'autorise que le tiers et non pas plus. Il dit innaka antabara warafataka aghniya khayrun laka min antabarahum ala yatakaffafuna an-nas rawahu al-Bukhari wa Muslim. Le prophète sallam dit à ses sahaba en ce sens que laisse le fait de laisser tes héritiers avec les moyens, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux pour toi que de les laisser pauvres à la merci des gens et qu'ils se mettent à mendier. Il est mieux pour ce sahaba qu'il donne un peu en sadaqa, mais qu'il laisse en plus, qu'il laisse en même temps suffisamment de biens pour sa famille, pour son épouse, pour ses enfants, que ces personnes restent indépendantes, qu'il n'ait pas besoin de demander, qu'il ne soit pas à la merci, qu'il ne soit pas muhtaj des gens. Cette situation est mieux, est plus appréciable, est plus digne pour un musulman, plutôt que de donner l'essentiel des biens dans la sadaqa et se retrouver dans une situation de dépendance. Et c'est ça le wasatiyya, c'est ça le juste milieu que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Et d'ailleurs, là, ça nous amène vers l'importance de travailler pour avoir son rosé halal. Et ça, c'est exceptionnel. Ce din nous demande de consacrer notre temps, notre bien, notre corps pour rechercher le contentement d'Allah, mais en même temps, le prophète sallallahu alayhi wa sallam encourage chaque musulman à travailler, à suer, à donner de son temps, de son corps pour obtenir un rosé qui sera halal, qui sera dignement mérité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilise cette expression « qu'on a bouclash bil halal ». Travailler pour obtenir son rosé, son pain quotidien, un revenu halal, ça fait partie des devoirs d'un musulman. Un homme, un père de famille qui travaille le matin, qui travaille l'après-midi et qui transpire, qui se fatigue, qui revient avec un rosé halal, c'est quelque chose de louable, c'est quelque chose d'admirable. Le musulman ne peut pas se permettre de vivre d'allocation. Un musulman, ce n'est pas quelqu'un qui attend que de l'aide des gens. Un musulman, ce n'est pas quelqu'un qui se dit, il y a certaines personnes qui vont m'aider, il n'y a aucune nécessité que je travaille, je vais me contenter de fréquenter la masjid. Faire ibadat, c'est une chose, mais travailler pour obtenir son rosé, c'est quelque chose de demandé, de requis par notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et notre prophète alayhi wa sallam a même dit, « Ni'mal maru salih, lirrajuli salih ». Quelle bonne chose qu'un argent pur pour un homme pur, pour un homme pieux. C'est un homme qui pratique son din et qui en même temps travaille et il obtient donc sa nourriture halal. Il n'y a rien de plus digne, il n'y a rien de plus louable. Et une personne qui travaille et qui dépense son argent pour sa famille, dans les besoins de son épouse, du loyer, de sa famille, de la nourriture, il recherche le contentement d'Allah, chaque centime, chaque euro dépensé est considéré comme sadaqa. Ça, c'est le juste milieu de notre religion. Il n'y a pas de coupure distincte entre la pratique du din et la capacité à exercer une activité dans ce dunya. Alors, comme on vient de dire, cette religion est une religion adaptée à toutes les générations, à toutes les époques, à toutes les cultures, à toutes les mentalités, jusqu'au jour de Qiyamah, car c'est une religion de loi sharia. Et nous n'avons pas le droit de compliquer cette religion. Ça, c'est haram. On n'a pas le droit d'inciter les gens à une pratique tellement excessive qui les repousse, qui finit par les lâcher ou par les donner une conception trop compliquée de la religion. On n'a pas le droit de compliquer quelque chose qu'Allah Ta'ala a rendu facile. Yassiru wa la tu'assiru wa bashiru wa la tunafiru. Autre point également, à partir du moment où on a compris qu'un musulman, c'est celui qui travaille pour son dîme, pour son iman, et qui en même temps travaille pour avoir son rosi. Un musulman, c'est une brique, c'est une pierre dans la société. C'est quelqu'un qui participe, qui est actif, qui apporte ce qu'il peut apporter à la société, que cette société soit musulmane ou non. Il n'y a aucune importance, mais œuvrer, donner de son temps, donner de ce qu'on peut pour la mujtama, pour la société. Alors, du moment où on a compris cela, on voit plus clairement que dans l'islam, on ne choisit pas son camp. On ne choisit pas son camp. Il n'a jamais été dit qu'il y a d'un côté le religieux et il y a d'un côté le mondain. Alors le religieux, c'est celui qui sera tout le temps habillé avec un thobe, avec la tenue, un bajou, qui aura toujours la grande barbe, qui sera toujours dans la masjid, toujours un tasbih dans la main. Lui, il a choisi de pratiquer la religion. Et celui qui travaille, ben, c'est quelque chose, c'est quelqu'un, celui qui travaille, qui met une chemise, un pantalon pour travailler, ben, c'est quelqu'un qui s'est voué au dunya. Il n'y a jamais eu de fracture, il n'y a jamais eu de distinction entre ces deux catégories de personnes. Et les hadiths que nous avons cités, et les ayats de Coran que nous avons cités, nous font bien comprendre que le musulman, celui qui travaille pour son dîn et en même temps pour son dunya. Alors, cette conception des extrêmes, ça c'est un piège de Shaitan aussi. Le fait de croire que soit on choisit le chemin de la religion, soit on choisit, si on prend le dunya, alors on a choisi le dunya, cela peut être un frein, cela, c'est un peu compliqué, mais je vais essayer de bien faire comprendre, cela peut être un frein pour une personne bien intégrée dans la société, qui a un bon travail et qui veut en même temps se rapprocher d'Allah. Si cette personne se dit que pour me rapprocher d'Allah, il faut que je revoie mes objectifs professionnels, il faut que je revoie mes ambitions, il faut que je revoie, il faut que je diminue mon temps de travail ou éventuellement que j'arrête de travailler, dans ce cas, et uniquement dans ce cas, je pourrais me rapprocher d'Allah, mais cette personne ne voudra jamais se rapprocher d'Allah. C'est pour ça qu'on veut bien expliquer que le partage équitable du temps entre le dunya et le akhirat, ça fait partie des facilités qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé dans la pratique de la religion. Et l'intégration sociale, le musulman qui travaille et qui obtient son rosi halal, c'est quelque chose de requis par l'islam, comme on vient de le dire, et analysons également ce que notre prophète alayhi salatu wasalam dit, al-mu'minul qawi, le musulman qui est fort, le musulman qui est actif, ahabu ila Allah min al-mu'minul da'if wa fi kullin khayr, ou comme a dit alayhi salatu wasalam, le musulman qui est actif, le musulman qui est fort, un musulman qui est présent, est plus élevé par Allah que celui qui est faible, qui ne peut rien faire. Mais dans les deux cas, il y a un trait. Et cela va à l'encontre de notre conception du bouzlouk. Pour nous, l'homme pieux, l'homme saint, c'est celui qui reste en permanence dans la masjid. Alors que quelqu'un qui est actif, qui gagne sa vie, et qui peut choisir en travailler de manière halal, et travailler de manière haram, et qui malgré les difficultés assume et travaille de manière halal, cette personne a un haut degré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une fois, lors du hijra, après le mont Aqad, on avait un sahaba qui habitait chez Abu Darda, a vu qu'il y avait une certaine négligence dans la vie d'Abu Darda concernant les droits de son épouse. Il a demandé à l'épouse d'Abu Darda, radiallahu anhu, de l'expliquer. Quelle est la situation? Et son épouse a dit que depuis que mon mari, Abu Darda, donc, s'est converti à l'islam, il ne me donne plus mon droit, il ne donne plus aucune attention, donc à moi, à l'épouse, ni aux enfants, il passe son temps que dans l'ibad. Et ce sahaba a dit, oh Abu Darda, il a expliqué que chaque chose a son temps. Wa inna li rabbika alayka haqqa, wa inna li ahlika alayka haqqa. Et pour Allah a un droit sur toi, ta famille a un droit sur toi, ton propre corps a un droit sur toi. Et il a dit en conclusion, fa'a'ti kulli haqqin haqqa, donne à chaque personne son droit. Tu dois donner le droit à Allah de l'ibadat, mais également donne le droit à ta famille, donne à ton propre corps son droit. Ça, c'est le juste milieu, ce n'est pas un discours nouveau, c'est le discours que les Sahaba tenaient à l'époque où le Coran était révélé. Une fois, le prophète a vu un musulman qui était habillé vraiment d'une manière négligé. On dirait que c'était une personne très pauvre et notre prophète alayhi salatu wassalam l'a demandé, est-ce que tu as besoin d'argent? Est-ce que tu es pauvre? Est-ce que tu es quelqu'un de nécessiteux? Cette personne dit non, Allah Ta'ala m'a donné beaucoup de biens. C'était une personne aisée, mais elle ne se souciait pas de son aspect extérieur. Le prophète sallam a fait inkar, il a reproché à ce sahaba, il a dit, إِذَا آتَاكَ اللَّهُ مَالًا فَلْيُرَى أَثَرُهُ عَلَيْكَ رَوَاهُ النَّسَائِي. Si Allah t'a donné de l'argent, si Allah t'a donné des biens, il faut qu'on voit cela sur toi. On comprend bien qu'il n'a jamais été dit que pour être un bourgeois, il faut s'habiller mal, il faut s'habiller de la manière la plus simple possible. Autre hadith qui prouve bien cela, et on finira avec ça, c'est l'heure. Une fois, Hazrat Omar radiallahu anhu, après la prière du Jum'a, a vu un groupe de gens qui restaient dans la masjid. On sait que lorsque le Jum'a est fini, Allah Ta'ala nous demande d'aller, de partir, de quitter la masjid, de travailler pour obtenir le baraka qu'il y a dans l'heure de la prière après la salat du Jum'a. Il a demandé à ses sahabas, mais qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi vous n'allez pas travailler? Ses sahabas ont répondu, نَحْنُ الْمُتَوَكِّلُونَ عَلَى اللَّهِ. Nous faisons confiance à Allah. Nous ne travaillons pas, nous avons confiance en Allah. Et qu'est-ce que Omar a répondu? On finira avec ça. Une parole ajib de Omar. La yaq'udu ahadukum an talab rizqi wa yaqul Allahumma rzuqni wa qad alima anna as-samaa'a la tumtiru dhahaban wa la fidda wa anna Allah yaqul fa idha qudiyat as-salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlih. Omar dit, je ne veux pas voir une personne qui reste assise dans cette mosquée après la prière de Jum'a et qui dit, oh Allah, donne-moi mon rosier halal. Oh Allah, accorde-moi mon pain quotidien, ma subsistance, et que cette personne reste assise et ne travaille pas. Alors qu'il sait qu'il n'a jamais été dans la sunnah d'Allah que le ciel, que lorsqu'il pleut, il y a de l'or qui tombe ou il y a de l'argent qui tombe. Et sachez, Omar dit, sachez qu'Allah a dit dans ce verset du Coran qu'après le Jum'a, recherchez les bienfaits d'Allah. Nous comprenons à travers ces quelques ayats du Coran, à travers ces quelques ahadith, que c'est une religion exceptionnelle, c'est une religion qui est faite pour durer dans le temps, adaptée à toutes les civilisations, car il nous montre bien le partage du temps équitable entre le dunya et le akhirat, qu'Allah atteint d'un tawfir de comprendre ces quelques paroles, de faire un mal, de propager à nos mères et à nos sœurs. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.